J'espère ne pas être trop longue. Si c'est trop long, je m'interromprai. De toute façon, j'ai prévu de vous parler un peu de la préhistoire littéraire. Et donc, il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses que vous pourrez découvrir vous-même dans le livre. Mais je vais faire ici une sorte de, voilà, d'introduction à cette question qui est évidemment une très vaste question. La préhistoire dans la littérature. C'était il y a 20 000 ans. Alors, le pôle Nord se tournait vers une étoile du Cygne. Sur les plaines de l'Europe, le mammouth allait s'éteindre pendant que s'achevait l'émigration des grands fauves vers le pays de la lumière, la fuite du renne vers le septentrion. L'auroch, l'urus, le cerf et l'aphe paissaient l'herbe des forêts et des savanes. L'ours colosse avait trépassé depuis des temps immenses au fond des cavernes. Alors, les hommes d'Europe, les grands dolichocéphales, s'étendaient de la Baltique à la Méditerranée, de l'Occident à l'Orient. Habitants des cavernes, plus intimes que leurs ancêtres de l'âge de Solutré, mais toujours nomades, leur industrie déjà fut haute et leur art attendrissant. Esquisse tracée au frêle burin, timide mais fidèle, c'est la lutte du cerveau vers le rêve contre la brutalité des appétits. Plus tard, lorsque viendra l'invasion asiatique, l'art décroîtra et tel charmant type d'industrie ne se retrouvera qu'après de longues périodes. Or, c'était à l'Orient méridional, dans la saison du renouveau, vers les deux tiers de la nuit, dans la lueur cendreuse d'une grande vallée, retentissaient les voix des bêtes carnivores. Un fleuve, dans les intervalles du silence, chantait la vie des fluides, l'euphonie des ondes. Les aunes et les peupliers répondirent en chuchotis, en harmonie intermittente. L'étoile de Vénus s'enchâssait dans le levant. La théorie des constellations immortelles apparaissait entre les nues vagabondes, Altaïr, Vega, les chariots, contournant avec lenteur la polaire du Cygne. Alors vous avez certainement reconnu dans ces lignes la prose de Rony Aîné. Hein. Ici, c'est un extrait, c'est le début de son roman, de son premier roman préhistorique, Vamiret, publié en 1892. Et vous avez certainement donc identifié ici l'auteur non seulement de Vamiret, mais aussi de nombre d'autres romans, dont en particulier La guerre du feu, publié en 1911, et qui a été un succès absolument planétaire, déjà à son époque et jusqu'à nos jours. Je crois que des générations et des générations de lecteurs se sont emparés de ce livre, ont rêvé à travers lui, et même des vocations de préhistoriens se sont formées après la lecture de ce livre, qui a aussi donné lieu à des films, et à un grand film en particulier de Jean-Jacques Haneau. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a, bon, on identifie souvent la préhistoire littéraire à Rony Aîné, mais ce que vous montre notre recueil, c'est qu'il n'est pas le seul. Évidemment, Rony Aîné a su mettre en scène ce qu'il a appelé lui-même les âges farouches, et même cette locution reste attachée à la préhistoire, les âges farouches. Hein, il y a des BD et toutes sortes de textes qui reprennent cette expression. Et on reconnaît donc ce style tout à fait particulier qui s'inspire des frères Goncourt, qui donc utilise un vocabulaire coloré et précieux, mais qui est curieusement souvent le vocabulaire scientifique lui-même. Vous avez entendu dans le texte que je vous ai lu, les grands dolichocéphales, l'urus, etc. Et c'est comme s'il s'emparait du vocabulaire de la science pour le faire chanter et pour en faire de la poésie. Il y a vraiment quelque chose de tout à fait singulier dans cette utilisation poétique de la science, dans cette utilisation exotique du vocabulaire savant, du vocabulaire donc qui dit la luxuriance de la nature primitive. Et puis, dans ces récits, il y a aussi quelque chose qui fait sans doute leur pérennité, c'est le fait qu'ils s'emparent de grands mythes pour les mettre en scène, pour les mettre en récit. Par exemple, dans La guerre du feu, le héros s'appelle Noah, hein, c'est un peu Noé, hein, Nao, pardon, il s'appelle. Et en fait, c'est un peu Noé, hein, le premier, enfin, l'homme qui a survécu au déluge. Et puis, il va rapporter le feu à sa tribu, hein, il va même rapporter non seulement le feu lui-même, mais la capacité de dominer le feu à sa tribu. Et en cela, c'est aussi le mythe de Prométhée, hein, qui est incarné dans ce personnage. Et puis, c'est un conte, un peu comme les contes de fées, avec les trois méchants frères, les trois gentils qui vont se battre, tout ça pour conquérir le cœur de la fille du chef. Et finalement, évidemment, happy end, le héros va épouser cette magnifique jeune fille. Et donc, il y a des tas de choses qui sont empruntées à toute une panoplie de ressources littéraires et mythiques, mais qui trouvent ici, dans cette forme qu'a inventée, en quelque sorte, Rony, de ce roman préhistorique, qui trouve donc une unité singulière et qui nous touche et qui transporte, d'une certaine façon. Voilà, alors La lumière du feu au cinéma. Rony, d'ailleurs, a eu une carrière tout à fait brillante. Il est devenu le président de l'Académie Goncourt à la fin de sa vie. Et donc, il était tout à fait reconnu dans le milieu littéraire. Et on peut dire que c'est avec lui que le roman préhistorique a conquis ses lettres de noblesse. Alors, évidemment, il n'a pas commencé à écrire des romans préhistoriques. D'autres avant lui l'ont fait. Et je voudrais souligner ici le fait que l'écriture de la préhistoire, si elle est le fait de beaucoup d'écrivains, elle est aussi, peut-être d'abord, le fait des scientifiques eux-mêmes. Et le premier roman préhistorique qu'on connaisse, en tout cas en France, a été écrit par un préhistorien, Adrien Arcelin, qui est le découvreur du site de Solutré, et qui a écrit en 1872 « Les chasseurs de rennes à Solutré, roman préhistorique ». Bon, littérairement, ce n'est pas une œuvre extraordinaire, mais enfin, elle met en scène, et là on voit vraiment l'importance pour un préhistorien de faire vivre le passé, qui se donne à lui sous forme de fragments, de bribes, de petits morceaux. Vous avez ici une exposition sur les empreintes, et on voit que le matériel est tout à fait minimal, et qu'à partir de ce matériel, il faut reconstituer des mondes. Eh bien, peut-être que la fiction, peut-être que l'écriture fait partie de ce qui rend possible cette reconstitution. Et je crois que les scientifiques eux-mêmes s'en sont aperçus. À côté des descriptions, à côté des relevés, à côté de tout le travail scientifique qu'ils font, eh bien, il y a aussi cette envie, au fond, de raconter, et de raconter des histoires qui font, comme d'ailleurs la science elle-même, qui font appel à l'imagination, à la fiction. Et donc, il n'y a pas seulement que Adrien Arcelin, il y a aussi François Borde. Vous savez que Borde, le grand préhistorien, a écrit des nouvelles qui mêlent préhistoire et science-fiction. Pour aller vite, il y en a d'autres. Yves Coppens a écrit avec Pierre Pelot un livre qui s'appelle « Le rêve de Lucie ». Jean Guilaine, récemment, a écrit un très joli petit récit qui s'intitule « L'ermite du paradis », dans lequel il met en scène tout son savoir sur le néolithique dans une histoire qui se passe au paradis, où l'archéologue mort rencontre, dans les territoires qu'il a choisis, où il a choisi de passer sa mort, celui aussi qui a choisi de passer sa mort là-bas, à savoir un homme du néolithique qui va lui raconter son existence. Et évidemment, cette existence, c'est tout le récit de ce que Guylaine a exploré pendant toute sa vie. Et donc, on voit que cette tentation n'est pas seulement ancienne, elle est aussi tout à fait récente. Le livre de Guylaine date de 2016, il y en a 17, pardon. Et il y en a d'autres. Pierre-Yves de Mars aussi a écrit un roman qui s'appelle Meurtres à Lascaux, etc. Donc il y a toute une littérature écrite par des scientifiques, et ça, je crois qu'il faut vraiment le relever. Alors, cette littérature, évidemment, parfois, elle peut sembler surfer toujours sur les mêmes choses. La fille du chef, les bagarres, les tribus, les meurtres, etc. Et déjà en 1880, Flaubert, donc, il s'est beaucoup intéressé à la préhistoire. Même à la fin de sa vie, il signait donc, L'homme de Cro-Magnon, où il disait je dépasse Cro-Magnon, je suis néandertal, etc. Et Flaubert a écrit, alors c'est dans le manuscrit du Clerc de Maresco, donc dans un texte annexe à Bouvard et Pécuchet, où d'ailleurs Bouvard et Pécuchet s'intéressent beaucoup à la préhistoire et à la paléontologie. Il a écrit ce texte, voilà: un préhistorique, ciel atroce, loup, cabane sur pilotis, grotte, portrait de l'homme, ours. Il viole une femme, il tue un homme pour la violer, mange l'homme, et comme la femme en veut un morceau, il la tue, la mange et s'endort tranquille. C'est ton aïeul, ô Parisien du XIXe siècle. Et vous voyez comment, dans ces quelques lignes, Flaubert a tout compris. Hein, il déshabille complètement le récit préhistorique tel qu'on trouvait sur la plume de pas mal d'auteurs déjà à ce moment-là. Hein. Ciel atroce, donc toujours un paysage absolument cataclysmique. Quelques animaux, le loup, l'ours, voilà la faune préhistorique réduite à sa plus simple expression. Il hésite entre cabane et grotte, hein, il met les deux. Portrait de l'homme, c'est même pas la peine de le faire, on sait, hein, on connaît l'homme préhistorique, sauvage, hirsute, etc. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il viole, il tue, il mange. Hein. Donc tous les interdits sont dépassés, l'interdit du meurtre, l'interdit du cannibalisme. Et voilà, il s'endort tranquille, c'est ton aïeul. Alors qu'est-ce que signifie cet apologue ? Est-ce que ça signifie que nous sommes restés des sauvages épouvantables, ou est-ce que ça veut dire que l'humanité a progressé depuis cette antiquité préhistorique? Voilà, ça laisse ouvert ces deux possibilités. En tout cas, je crois que Flaubert a vraiment mis à nu la trame des récits, et les uns par là même condamnés un peu comme des poncifs, comme des récits qui ne vaut même pas la peine de raconter, hein, tellement on les connaît. Mais je crois qu'en fait, il se trompait un peu, parce que le récit préhistorique, après lui et après même Rony, dont j'ai parlé, a toute une histoire, tout un devenir. Alors, ce que permet le récit de préhistoire, c'est pas seulement ses aventures, ses combats entre tribus, etc., mais aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, le voyage initiatique. Hein, traverser les temps de la préhistoire, donc c'est aller s'initier en quelque sorte, c'est se former au cours d'un voyage dans le temps. Et c'est ce qu'avait bien compris Jules Verne, qui a inclus dans ses voyages extraordinaires, peut-être le plus extraordinaire des voyages, hein, le voyage au centre de la Terre, où les deux héros vont parcourir le temps à travers les différents lieux qu'ils rencontrent en s'enfonçant dans les profondeurs d'un volcan éteint, et vont donc dans l'espace et dans le temps rencontrer des animaux préhistoriques, des ossements, un lac où se battent des animaux du secondaire, etc. Et puis finalement, un homme, hein, tout à fait au fond de l'abîme. Axel, regarde là-bas, il me semble que j'aperçois un être vivant, un être semblable à nous, un homme. Et voilà, donc, ils ont atteint le plus profond de l'initiation, la rencontre de l'autre, la rencontre de l'homme préhistorique. Ce texte est écrit en 1863, au moment même où Boucher de Perthes a inauguré la science même de la préhistoire, et où cette science a été acceptée en France et ailleurs. Donc, on rencontre l'homme au fond de la Terre. Alors, il y a d'autres possibilités même de raconter cette histoire. Et personnellement, je ne sais pas si vous êtes familier de ce roman. Il y en a quelques extraits dans l'anthologie. J'aime particulièrement le livre d'Edmond Haraucourt qui s'intitule « Da, le premier homme », publié en 1913. Qu'est-ce que c'est que « Da, le premier homme » ? Eh bien, c'est aussi un roman préhistorique, mais c'est un roman dont la trame du récit est constituée par le flux de conscience de l'homme le plus primitif qui s'ouvre au monde. Donc l'apparition de la conscience du monde. Et c'est extrêmement beau. Edmond Haraucourt est un poète. C'est quelqu'un qui a écrit des poèmes érotiques en particulier, etc. Il s'intéressait beaucoup à l'archéologie, à la préhistoire, qui a dirigé le musée du Trocadéro, qui a été aussi le directeur du musée de Cluny, et qui a écrit ce texte tout à fait remarquable. On voit Da et sa compagne Hoc découvrir l'ombre. Il y a un texte magnifique, il est un peu long, donc je ne vais pas vous le lire, mais vous le trouverez dans le livre. La mer, voici, Da est devant la mer. Une horreur sacrée le pénètre. Toute sa force est effondrée en lui d'un coup. Da se sent pareil aux morts, il n'existe plus. Trouble et rapide, tout son passé lui traverse la tête. Depuis qu'il marche, il a marché en vain. Il est au bord du monde. L'impénétrable l'arrête, le néant lui apparaît. La grande âme du mystère prend sa petite âme naissante et l'étouffe. Pour la première fois, l'homme a reçu l'impression de l'infini. Voilà. Bon, c'est peut-être pas le texte le plus poétique de ce livre, mais en tout cas, ça vous donne un peu une idée de la manière dont cette conscience des choses et du monde advient à l'homme. Et je crois que c'est une très belle tentative que d'essayer de, par l'écriture même, hein, parce que l'écriture fonctionne, de donner à à percevoir cet avènement de la conscience. Alors, évidemment, le roman, c'est aussi le roman d'amour. Et il y a de l'amour dans les romans préhistoriques. Il y a certains auteurs qui ont essayé de raconter, par exemple, le premier amour, le premier baiser. Nomaï, Amour lacustre, est aussi un texte de Rony Aîné. Marcel Pagnol aussi avait écrit un scénario qui n'a pas été matérialisé dans un film, mais qui existe. Il y en a un extrait dans notre anthologie qui s'intitule « Premier amour ». Et puis, il y a toutes sortes de romans, plus ou moins réussis, qui essayent de mettre en scène des héroïnes féminines qui ont des histoires d'amour, etc. Voilà, par exemple. Alors, évidemment, ces romans plus ou moins érotiques sont l'occasion de dessins, parfois assez évocateurs. L'érotisme, évidemment, est toujours attaché à la préhistoire. Pourquoi ? Peut-être parce que la préhistoire est née à la fin du XIXe siècle, à un moment où il y avait certains interdits, certains tabous, et la préhistoire permet de lever ces tabous, puisqu'on est dans l'origine, puisqu'on est dans le passé, dans la sauvagerie, etc. Donc, voilà, il y en a d'autres dans ce petit livre de Rony Aîné. Alors, évidemment, tous les textes autour de la femme ne sont pas mièvres, comme je l'ai dit. Il y en a aussi qui essayent de réfléchir à la condition féminine. Et nous avons inclus dans cette anthologie un texte de Simone de Beauvoir. Alors, pourquoi Simone de Beauvoir ? Le deuxième sexe, qui est un livre en deux volumes, évidemment, c'est un texte engagé, c'est un texte philosophique, mais si vous le lisez, si vous commencez au premier volume, aux deux premiers chapitres du premier volume, vous verrez que Simone de Beauvoir, c'est ça, il y a une sorte de fiction préhistorique, dans laquelle elle dépeint l'existence des femmes au paléolithique et au néolithique. Donc les femmes soumises à l'absurde rythme physiologique qui l'oblige à satisfaire au désir du mâle et à procréer indéfiniment, plus esclave même que l'esclave, parce qu'elle aime celui dont elle est l'esclave, etc. Donc il y a toute une réflexion sur l'aliénation féminine qui, selon Beauvoir, commence au paléolithique et se continue au néolithique, puisque même si la condition des femmes devient plus diversifiée, puisqu'il y a des groupes sociaux différenciés à cette époque-là, eh bien, elle n'en est pas moins déplorable et asservie. Et donc tout cela, toute cette fiction, c'est évidemment le prélude à l'exposé qui va suivre, donc appel aux femmes d'aujourd'hui à refuser la condition asservie qui a toujours été la leur, à refuser de s'abîmer dans la reproduction, dans l'amour passionnel ou la contemplation mystique, au profit d'une libération qui leur permettra de dominer à leur tour dans une société devenue véritablement civilisée. Et donc, je crois qu'on peut lire aussi le texte de Beauvoir comme une sorte de fiction préhistorique. Mais le féminisme n'a pas toujours donné lieu à des visions aussi noires et aussi sombres. Le féminisme américain, au contraire, promeut la femme de la préhistoire comme celle qui a accompli beaucoup de choses dans l'histoire de l'humanité et qui a été ensuite, évidemment, dominée par le patriarcat. Et on trouve chez Jean Howell, la grande romancière américaine, toute une série de romans où vont s'illustrer ces idées des féminismes américains. Cette jeune femme, Ayla, fille des cavernes, qui va s'émanciper, qui est une sapiens qui a été recueillie par des néandertaliens et qui va s'émanciper non seulement de la condition asservie des femmes de Néandertal, mais même de celle des femmes sapiens en devenant une femme libre, aussi bien sexuellement que dans sa vie quotidienne. Et il y a des scènes érotiques aussi dans les romans de Jean Wells, qui ont d'ailleurs contribué au succès de cette littérature. Alors, l'amour, l'humour, il y a aussi de l'humour dans les récits préhistoriques. Alors, dans les récits de l'âge de pierre, vous en trouverez un extrait assez désopilant dans notre anthologie, mais aussi dans le fameux livre de Roy Lewis, What Happened to Father, et qui a été traduit par Vercors, magnifiquement traduit, en 1990, seulement en France, sous le titre « Pourquoi j'ai mangé mon père ?». Et c'est un livre dont vous vous souvenez, qu'il met en scène non pas Da et Hawk et Nao, mais Édouard, Griselidis, etc., des prénoms tout à fait bien civilisés, et des gens d'ailleurs de très bonne composition, mais qui rechignent, qui traînent les pieds, parce qu'ils en ont assez de ce progrès dont on leur rebat les oreilles. Et là, évidemment, ce n'est pas tant les hommes de la préhistoire qu'ils fustigent, mais les préhistoriens eux-mêmes. hein, qui imagine que les hommes préhistoriques étaient animés de cette volonté de progrès qui était là dans toutes leurs activités. Il y a quelque chose d'un peu ridicule que Roy Lewis a bien pointé et a bien montré. Lui qui connaissait bien les préhistoriens, il était allé en Afrique auprès de Louis Leakey dans les années 50-60. Et donc à la fois son livre est une caricature de certains aspects de la science de la préhistoire, en même temps qu'une initiation tout à fait intéressante à la préhistoire elle-même. Et il y a d'autres textes de Cavanagh, d'Éric Chevillard. Il y a un texte absolument hilarant d'Éric Chevillard que nous avons inclus dans l'anthologie où il raconte la vie future du professeur Leroy-Gourhan. Et alors, donc il y a trois étapes dans l'histoire de l'humanité. Il y a Jacques Boucher, crèveteur de Perthe. Il y a l'abbé Breuil et il y a le professeur Leroy-Gourhan, chacun représentant une espèce dominée différente. Et alors voilà, donc c'est assez drôle. Alors si l'humour est présent dans les romans préhistoriques, c'est peut-être parce que l'humour est inhérent à l'homme même. Et ça, l'humour, le jeu, c'est ce qu'avait pointé, c'est ce qu'avait indiqué Georges Bataille dans son fameux texte Lascaux ou la naissance de l'art, qui est un texte d'une certaine façon documentaire, c'est le premier grand texte illustré de photographie de Lascaux, mais qui est aussi à sa façon une sorte de poème, de texte littéraire. C'est un très très beau texte que celui de Lascaux, qui a d'ailleurs aussi lui aussi marqué des générations de lecteurs. Et dans ce texte, Bataille dit quelque chose de très important. Il dit d'une part que la conscience du sexe et de la mort sont propres à l'homme, mais il dit aussi, s'inspirant du philosophe Huizinga, du philosophe néerlandais Huizinga, que l'homme, c'est pas seulement l'homo faber, l'homme qui fabrique, mais c'est aussi l'homme qui joue, homo ludens. Et il explique, s'agissant de l'art de Lascaux, comment l'art est apparu comme une transgression par rapport aux interdits qui déjà façonnait l'existence humaine et par rapport à la nécessité du travail qui faisait déjà partie de la condition humaine. Si l'art est apparu, c'est précisément parce que le propre de l'homme, c'est le jeu, c'est le rire, c'est la fête. Une œuvre d'art, dit-il, participe d'un esprit de fête débordant le monde du travail et sinon la lettre, du moins l'esprit des interdits nécessaires à la protection de ce monde. Il y a vraiment des très très belles choses dans les textes de Bataille, aussi dans Les larmes d'Eros, qui est un texte très émouvant qu'il a publié tout près de sa mort. Voilà. Et Lascaux, donc, l'art préhistorique, l'art paléolithique, a donné lieu à toutes sortes de lectures, à toutes sortes d'écritures, toutes sortes de textes très beaux, souvent. Voici ce que disait Malraux dans ses Antimémoires. Lascaux, pareil à ces cités englouties qui reviennent à nous pour mieux nous surprendre dans notre rêve du monde. Et ce rêve du monde, eh bien, non seulement les écrivains, mais aussi les artistes s'en sont emparés et l'ont fait vivre dans leur écriture et dans leur art. Et il y a dans l'anthologie un texte de Giacometti que nous avons voulu intégrer parce que c'est aussi un texte écrit, un texte littéraire où il explique qu'une âge préhistorique peut être aussi belle qu'une sculpture. Et il y a aussi un texte de Soulages, le grand peintre Soulages, qui a souvent dit son attachement aux différentes périodes de la préhistoire. Lui qui vivait près de Béziers et qui a rencontré tout enfant ces fameuses statues menhirs donc de l'âge du bronze, mais qui aussi est allé dans les grottes et a été fasciné par ce qu'il dit ici. Ce qui m'atteint directement, ce sont les qualités concrètes de la trace, de la forme, de la tache, des contrastes, de la vibration et des modulations de la couleur, souvent du noir. Il parle là de l'art paléolithique et vous savez combien Soulages a travaillé le noir. Toute sa peinture, c'est un jeu sur le noir. Alors, il y a aussi, évidemment, des textes de Titus Carmel, qui, non content d'être l'artiste remarquable, est aussi un écrivain, et donc qui nous a donné quelques pages inédites où il parle de sa découverte de l'art paléolithique. « Je retenais mon souffle, un silence impressionnant habitait entièrement la grotte. On avait l'impression que tous les bruits du monde s'étaient précipités là, avant d'avoir été compactés et enfouis de force au plus profond pour produire un son blanc et muet, semblable à la matière de la craie, un peu comme une voix étranglée suspendue à demeure au cœur d'une demeure sans âge. Et c'est très beau, et c'est son expérience d'artiste qu'il écrit, qu'il décrit dans ce long texte de plusieurs pages qui est inclus dans cette anthologie. Et Michel Julien, lui aussi, alors écrivain, qui est ici, mais qui vous parlera de son expérience des Combarelles, mais dont on peut lire des très beaux textes qui racontent cette découverte. Là, sous mes yeux, c'est un auroch ou un mastodonte, une vieille bête batte de goulienne, hirsute, belle et bien présente et disparue depuis des millénaires, comme j'ai moi-même l'impression d'être ici et de m'abstraire au moment. Il y a effectivement cette espèce de découverte, par la découverte de l'art paléolithique, une abstraction du temps, du moment, dans la rencontre de ce passé très lointain. Mais il peut y avoir aussi, un dialogue entre le passé et le présent. Et le passé peut nous dire des choses sur ce présent. Et c'est ce que montre en particulier, c'est ce que nous font ressentir les poèmes de René Char, publiés donc en 1952, 5 poèmes sur Lascaux, qui nous font sentir que les œuvres paléolithiques témoignent d'une harmonie perdue de l'homme avec la nature. Et dans ces années du lendemain de la guerre, qui nous font aussi penser à notre propre condition. Cet art paléolithique en contrepoint avec les destructions et les désastres du XXe siècle, et peut-être aussi avec notre propre conscience aujourd'hui de ce que nous avons fait de la nature et des risques que nous faisons courir non seulement à la nature, mais à l'homme lui-même à travers les utilisations abusives et les destructions. Voici ce qu'écrit René Char. L'âge du renne, c'est-à-dire l'âge du souffle, ô vitre, ô givre, nature conquise, dedans fleurie, dehors détruite. Insouciants, nous exaltons et contrecarrons la nature et les hommes. Cependant, terreur, au-dessus de notre tête, le soleil entre dans le signe de ses ennemis. Il y a 5 poèmes magnifiques, qui sont tous les 5 d'ailleurs dans notre anthologie, et que vous pourrez lire. Voici ce qu'il dit aussi à la fin sur la licorne de Lascaux. La bête innommable ferme le gracieux troupeau comme un cyclope bouffe. Ainsi m'apparaît dans la frise de Lascaux, mère fantastiquement déguisée, la sagesse aux yeux pleins de larmes. Vous voyez, c'est sa lecture très belle de cette image qui reste un mystère. Pour les préhistoriens, on ne sait pas très bien ce que représente cette fameuse licorne. Est-ce que c'est vraiment une licorne ? Eh bien, pour Char, c'est la sagesse aux yeux pleins de larmes. C'est celle qui nous dit justement la conscience de ce que nous sommes et la conscience de notre rapport à la nature. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour dire que, évidemment, j'ai pas du tout cité tous les textes qui sont dans ce recueil. Il y en a un grand nombre. Mais en tout cas, j'espère vous avoir un petit peu convaincu que la préhistoire habite la littérature. Et vous verrez que nos plus grands écrivains, romanciers, poètes, penseurs, de Balzac à Flaubert, de René Char à Pierre Michon, de Philippe Solers à Jean Rouault et à Pascal Quignard, ont inclus la préhistoire au sein de leur géographie mentale et de leur univers poétique, et que la préhistoire s'inscrit ainsi pleinement dans notre monde. Et je voudrais terminer avec une citation qui peut vous paraître un peu incongrue, puisqu'elle est de Marcel Proust. Qui penserait que Marcel Proust a écrit sur la préhistoire ? Eh bien, il l'a fait. Il a inscrit donc ce temps profond, Marcel Proust, cet écrivain de la mémoire, cet écrivain de la recherche du temps perdu, inscrit dans la recherche du temps perdu le temps de la préhistoire. Et dans les dernières pages du dernier volume, il raconte comment, étant petit, il y avait quelqu'un de malade dans sa famille et on l'avait éloigné, on l'avait fait habiter chez une femme de ménage, une dame, une servante, qui s'appelait Eulalie. Et voici ce qu'il dit de la chambre d'Eulalie où il a habité temporairement. La seule chose un peu triste dans cette chambre d'Eulalie était qu'on y entendait le soir, à cause de la proximité du viaduc, les ululements des trains. Mais comme je savais que ces beuglements émanaient de machines réglées, il ne m'épouvantait pas, comme aurait pu le faire à une époque de la préhistoire, les cris poussés par un mammouth voisin dans sa promenade libre et désordonnée. Vous voyez, il y a même un mammouth dans la recherche du temps perdu, et ce n'est pas un hasard si ce texte termine un livre qui s'intitule « Le temps retrouvé ». Et je crois que le temps retrouvé, ça peut caractériser aussi bien l'écriture de tous ceux qui ont écrit sur la préhistoire que les préhistoriens eux-mêmes à travers leur quête, leur fouille, leur travail pour découvrir ces mondes perdus. Je vous remercie.